À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Sainte Thérèse d'Avila, qui est tellement connue, et pourtant, peut-être si peu connue, comme disent certains auteurs quand ils commencent à parler d'elle. Elle est morte en 1582, donc, à la période de cette réforme de l'Église par le Concile de Trente, à la période de la réforme protestante, et elle est elle-même une réformatrice. Elle a réformé le Carmel, les Carmélites. Et elle a vécu, on peut dire, une mystique de l'action, puisqu'elle a fondé tellement de monastères, dans des circonstances extrêmement pénibles, où vous imaginez les déplacements à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui. Une femme extraordinaire. Dans une pièce de théâtre que j'avais vue à son sujet, et on la retrouve d'ailleurs dans la belle revue L'Avant-Scène, théâtre, n'est-ce pas? Pièce intitulée « Thérésade » de Louise d'Outreligne. Il est dit à un moment donné, dans une réplique, « Qui sommes-nous pour nous préoccuper de nous-mêmes? Si un jour quelqu'un cherchait à vous inculquer une doctrine large et facile, ne le croyez pas, ne le suivez pas. » Aujourd'hui, on cherche la facilité en spiritualité. Ce n'est pas l'attitude de Thérèse d'Avila, et pourtant, elle est très humaine. Très, très humaine. Au point qu'elle a même été nommée docteur de l'Église en 1970. Première femme à être docteur de l'Église, il était temps, hein, par Paul VI. Oui, Thérèse d'Avila, je crois, moi, qu'elle est l'honneur de l'Espagne et de l'Église. Sainte Thérèse de Jésus, oui, c'est son nom de religion, Thérèse de Jésus, a expérimenté puis décrit la vie mystique la plus haute, comme le rapportent les bénédictins dans leur belle collection de vie de saint. Elle a atteint, en 1572, elle est morte en 1582, donc 10 ans avant sa mort, elle a atteint ce qu'on appelle le mariage spirituel. Qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler tout à l'heure. C'est de la très haute mystique. Mais c'est quelque chose à laquelle nous sommes, en fait, tous appelés en principe. Et Thérèse d'Avila a guidé je ne sais combien de religieuses, et plusieurs religieux d'ailleurs de son ordre du Carmel, vers une vie parfaite, sans compter depuis le XVIe siècle, des millions d'âmes, oui, je croirais bien des millions d'âmes vers la sainteté. Des gens qui ont atteint la sainteté qu'on ne connaît pas, que l'on ne connaîtra jamais, si ce n'est au ciel. Vous vous cherchez peut-être un directeur spirituel, vous pouvez lire sa vie. Oui, sa vie a été écrite admirablement par une laïque, Marcelle Auclair. Elle a aussi été écrite dans une belle collection de vie de saint, qui est distribuée par Anne Sigier. C'est une collection immense qui coûte des centaines de dollars, mais ça vaut la peine, vous avez là de très belles vies de saints. Dans 11 volumes immenses, sur papier glacé, très bien illustré. Il y a aussi une vie de Sainte Thérèse d'Avila parue dans les études carmélitaines, c'est par Olivier Leroy, en 1962. Et puis, oh, il y en a bien d'autres. Il y en a une de Rosa Rossi, étonnante, Thérèse d'Avila, traduite de l'italien, parue aux éditions du Cerf il y a quelques années. Elle rapporte, celle-ci, cet auteur, que Thérèse de Ahumada, c'était son nom aussi, Thérèse d'Avila de Ahumada, était une de ces nombreuses religieuses du couvent de l'Incarnation des Carmélites, grand couvent, où il y avait 180 moniales. Autour d'elle, c'était un bruit habituel, qui naît de la vie commune, écrit-elle, de tant de personnes. Des visites et des bavardages, non seulement au parloir, mais aussi aux fenêtres et à travers ces nombreux petits passages qui s'ouvraient dans les murs d'un couvent qui n'en finissait pas de se construire. Et puis la conversation au parloir. Imaginez, Thérèse est-elle l'une des plus demandées et des plus adonnées à ce passe-temps? Adonnée surtout à la conversation avec une personne qui manifestait être très attachée à elle. Et toutes lui répétaient que ses conversations au parloir ne nuisaient en rien à la réputation à laquelle elle tenait beaucoup. On raconte que c'était une femme très attirante, le corps un peu massu, mais bien fait. Un teint clair, le visage régulier. Des yeux que le sourire illuminait. Elle avait un si visage qui resplendisse dans un éclat de rire. Oui, elle éclatait de rire. Elle était toujours très soignée de sa personne. À l'incarnation, donc à ce grand, grand, grand cloître de l'incarnation à Avila, il en était qui se souvenait encore de la splendide robe orange avec galons de velours noir un jour que, encore fillette, elle était venue en visite, ou de la passion qu'elle avait pour les parfums. On disait d'elle que même une guenille lui allait bien, et Thérèse admettait qu'elle plaisait ou qu'elle allât. Elle avait du charme et elle aimait le montrer quand elle était jeune. Mais elle était devenue une religieuse vraiment comme les autres. Loin étaient les temps des lectures passionnées de toutes sortes de romans. Les temps quand, toute jeune, elle avait expérimenté l'amitié avec Dieu, les joies de l'expérience intérieure et le réconfort de la raison aussi, en lisant des vies de saints. C'est une personne très, très, très exceptionnelle que cette Thérèse d'Avila. Exceptionnelle en tout point. On peut se demander comment il se fait qu'elle soit devenue une si grande sainte quand on lit certains des éléments de sa jeunesse. Elle a écrit sa vie, elle nous a laissé son autobiographie, elle parle de sa vie à elle et aussi de sa vie avec Dieu. Or, Thérèse a divisé sa vie en deux parties, sa vie à elle, puis la vie de Dieu en elle. On va commencer par sa vie en elle. Elle est née le 28 mars 1515 au sud de la Vieille Castille, en Espagne évidemment, à Avila. On appelle ça, cette région-là, une terre de rocs et de saints. Les murailles crénelées là, de la ville d'Avila nous rappellent un peu, dans un sens, la croisade et puis la chevalerie, mais c'est pas nécessaire de décrire le paysage, c'est pas ça qui nous intéresse. Chez elle, chez Sainte Thérèse d'Avila, toute sa beauté, en fait, est intérieure, et c'est ça qui nous intéresse. Il suffit de dire qu'elle est née dans une Espagne à son apogée, et à preuve, son parrain était frère du premier vice-roi du Pérou, parce que les Espagnols, évidemment, colonisaient l'Amérique à ce moment-là. Mais l'Amérique du Sud, surtout, évidemment. Mais l'Église, en Europe, passait par une crise. Évidemment, il y avait le déchirement dont Thérèse a ressenti intérieurement l'angoisse qui était occasionnée par les luthériens. Et si l'on désire faire un tour d'horizon, il suffit de lire, si on veut, un très beau livre que j'ai lu il y a bien longtemps de Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. C'est paru il y a 50 ans, mais ça demeure très intéressant. Bon, le père de Thérèse s'appelle Don Alphonse Sanchez de Cepeda. Donc le nom de son père, c'est de Cepeda, mais elle portait le nom de sa mère, de Ahumada. Étrange. C'était un bonhomme un peu casanier. Il vivait parmi ses livres, des livres sévères, des livres de religion, ascétiques. Il s'est marié deux fois, sa première femme lui a donné deux fils et une fille, puis la seconde, née en 1495, la fameuse Doña Beatrix d'Avila de Ahumada, lui a enfanté sept fils, plus notre Thérèse, plus une autre fille, donc 13 enfants en tout. Béatrix était douce, pudique, belle, mais elle s'habillait comme une vieille dame. Oui, sa mère avait un bon jugement quand même, et Thérèse l'a connue presque toujours malade, puis elle va mourir vers la fin de 1528, à 33 ans seulement, et elle laisse Thérèse âgée de 13 ans. Imaginez, c'est très dur de perdre sa mère à cet âge-là. Et l'intérêt pour la religion commence chez Thérèse vers 6 ou 7 ans, elle lit des vies de saints. Oui, encore une autre qui lit des vies de saints et qui devient une sainte. Puis, Et cet enthousiasme pour les martyrs, elle pouvait se faire décapiter par les musulmans qu'on appelait les morts, hein, qui avaient envahi l'Espagne et occupé les plus belles régions souvent. Elle aimerait se faire décapiter par ces musulmans qui occupent son pays depuis des siècles. Elle parle de son projet à son frère Rodrigue, qui a 4 ans de plus qu'elle. Bon, en avant. Il part. Mais un oncle arrête les deux enfants sur la route de Salamanque. Et puis le petit garçon, ben, il sent vraiment coupable. Alors il accuse la jeune Thérèse, qui dit qu'elle l'a séduite dans cette escapade un peu folle. Ça, c'est en 1522. Oui. Bon, elle a 6 ans, 7 ans. Alors, les deux enfants décident de se faire ermite. Et on se bâtit au jardin des ermitages, mais les petits murs de pierre s'écroulent et Thérèse aime prier dans la solitude. Et ça semble sérieux au fond en elle. Elle a une prédilection d'ailleurs pour le chapelet. Oui, déjà le chapelet. Elle joue à la religieuse avec ses petites amies, comme bien des enfants de son âge, et ça existe même encore. Oui, j'avais une petite fille qui aimait se costumer en sœur de la charité des sœurs grises. Une sœur grise lui avait fait un petit costume, puis elle l'avait même porté dans le métro. Comme Saint Ignace de Loyola, avant sa conversion, Thérèse adolescente se prend à lire des romans de chevalerie, et sa mère avait un faible d'ailleurs pour ce genre de choses. Elle imite sa mère, elle lit des romans, mais elle se cache de son père. Son père, c'est les livres ascétiques. Elle prend soin de sa parure, de ses mains, de sa chevelure, puis la propreté est chez elle un souci excessif, hein. Elle se parfume. Il y a des cousins qui la visitent, sont assez beaux gars, alors la frivolité s'installe, elle aime se faire belle et faire parler ses cousins, mais surprise, tout à coup, après un séjour dans un couvent d'Augustine, des sœurs Augustines, elle songe à entrer chez les carmélites et elle parle à son père. Il refuse, bien que il soit d'esprit ascétique. Elle lit les épîtres de Saint Jérôme et surtout cette fameuse épître à Héliodore où on peut lire « Même si ton père se couche sur le seuil de la porte, foule aux pieds ton père et marche et entre. » Suis Jésus, quoi. Ça la décide à passer outre et à entrer au couvent malgré les objections de son père. Elle se présente donc au couvent de l'Incarnation, qui est situé un peu en dehors d'Avila, dans un petit vallon pierreux, là, dénudé. Il y a là quelques 180 religieuses, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis elle échange le 2 novembre, elle a 20 ans, là, une belle robe, une autre robe orangée encore, et pour le costume des carmélites mitigées, des carmélites, comme je vous les ai décrites tout à l'heure, qui vont parloir, qui papotent et perdent beaucoup de temps. Puis elle va passer 27 ans dans ces murs, insouciante parfois, souvent travaillée par la grâce et le désir d'une plus haute perfection, jusqu'au moment où Dieu triomphe enfin dans son âme. Et elle quitte donc cette maison presque confortable pour affronter quoi? Les difficultés des fondations, et c'est pas facile, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là se forme cette femme extraordinaire et admirable, qui réunit en elle, oui, le charme puis l'autorité. Le charme d'une âme mystique qui aime à exprimer en acte son amour. Elle a l'autorité. L'autorité, quoi, d'une intelligence qui est réaliste, une intelligence qui est positive, c'est avec ça qu'on fait les plus grands saints, qui connaît les cœurs et sait s'en servir pour renouveler ce Carmel décadent. Alors, le grand monastère de l'Incarnation à Avila, je vous l'ai dit, n'était pas parfait. Elle le dit elle-même, d'ailleurs. Elle s'y est développée, Thérèse Avila, tant bien que mal. Hein? Comme dans n'importe quelle communauté, dépourvue d'élan spirituel véritable, ça existe malheureusement. Novice, elle regimbe contre les reproches immérités. Elle a du caractère. Elle cherche d'ailleurs à être estimée, ce qui n'est pas le bon chemin pour la sainteté. Pendant une vingtaine d'années, elle n'a pas trouvé un confesseur qui puisse la comprendre. Pendant 20 ans. C'est long. Un oncle, heureusement, probablement le frère de son père, lui a procuré la troisième partie de l'abécédaire spirituel du franciscain François de Osuna sur l'oraison de recueillement. L'oraison de recueillement. Elle lit ça, ça l'aide beaucoup. Elle évite les fautes graves. mais ce ne soucie pas tellement des fautes véniels. Et parfois, le Seigneur lui accorde le temps d'un « Je vous salue Marie », l'oraison de quiétude, ou même celle d'union. Ce sont de beaux moments, mais elle en reste là. Pendant quelques 18 ans, elle a connu surtout les sécheresses, une sorte de lassitude, d'ennui. Qui ne connaît pas ça, hein? Elle considère Jésus présent en elle. D'accord, mais elle ne sait pas parler simplement à Jésus. Elle ne sait pas se servir un temps soit peu de son imagination que Dieu nous a donnée. Une imagination qui est centrée sur Jésus, évidemment pas une imagination qui folâtre. Il lui faut un livre pour amorcer au moins son oraison. Ce n'est pas mauvais, mais il lui faut ça, c'est normal, c'est le début. En 1537, elle tombe gravement malade alors qu'elle est en dehors du monastère, parce que dans ce temps-là, les carmélites n'avaient pas de clôture stricte. Puis elles admettaient des sorties pour raisons de santé, toutes sortes de choses. Curieux, hein? Un peu comme des sœurs ordinaires. Minée par la fièvre, Thérèse d'Avila sent que son cœur et ses nerfs sont brisés, et les médecins parlent de phtisie. Et vers ce temps-là, Dieu s'arrange pour lui faire lire les morales, ou les morales, si vous voulez, de Saint Grégoire sur Job. Job est au cœur, hein, de la formation de bien des saints. Le livre de Job dans la Bible, hein, ça vous connaissez ça. Ça lui est un bon tonique, ça. Elle sent d'ailleurs que la mort approche. Elle reçoit donc l'extrême onction. Elle vit torturée jusque vers Pâques 1538. Mais elle se fait transporter à son monastère de l'Incarnation, là. Un peu de santé lui revient, grâce à l'aide de Saint Joseph, pour lequel elle aura toujours une très grande dévotion, hein, Saint Joseph, le père de Jésus. Elle abandonne alors sa fidélité à l'oraison. Et elle se met à recevoir des visites, et vers 1539, elle voit des yeux de larmes le mécontentement de notre Seigneur au cours d'un de ses entretiens inutiles au parloir, ou du blablabla, là. Notre Seigneur lui fait un regard de mécontentement. Puis comme elle était en compagnie du même visiteur, voici venir une espèce de crapaud étrange, c'est dans son imagination évidemment, énorme, d'une rapidité surprenante, dans un lieu où il n'y en a jamais eu. Et puis d'autres personnes pourtant aperçoivent aussi ce crapaud. On dit, mais elle est folle. Non! C'est des éléments étranges et des façons de cheminer chez une personne à laquelle survient toutes sortes de choses. Chose curieuse, d'ailleurs, dans le même temps qu'elle abandonne plus ou moins son oraison, elle pousse son père puis d'autres personnes à pratiquer cette façon de vivre avec Dieu. Mais son père meurt au début de 1544 et Thérèse a près de 29 ans à ce moment-là. Elle se remet alors à son oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse en présence de Dieu, sans abandonner les plaisirs inutiles puis le blablabla. Un jour, une statue du Christ flagellé et sanglant lui rappelle le sérieux de l'amour que nous devons à Dieu. C'est le profit que nous avons avec la sainte face de Jésus aujourd'hui. Face sanglante, troublante. Et pour elle, c'est une vraie conversion, ça, en 1555. Presque tous les soirs, elle médite sur l'agonie au jardin, sur la sueur du sang de Jésus. Et les confessions de Saint-Augustin lui sont alors un stimulant, puis une consolation, puis elle se transforme, et elle laisse Dieu la transformer. Mais c'est alors la vie de Dieu en elle. Elle s'éloigne des occasions dangereuses. Elle se donne beaucoup mieux à l'oraison, et Dieu l'aide davantage. Et sur le conseil d'un saint laïc, oui, un saint laïc, elle se confesse à un père de la Compagnie de Jésus, qui en 1554 a établi un collège à Avila. Les Jésuites ont été fondés en 1534, soit 20 ans plus tôt. Hein? Tout jeune, les Jésuites, à ce moment-là. Et au printemps de 1557, elle a le bonheur de parler un peu à un très grand saint jésuite, c'est François de Borgia, qui est entré dans la compagnie. Il était duc de Gandie, très très riche en Espagne. Il lui conseille de commencer son oraison sur un point de la Passion. Un moment, de la Passion de Jésus. Puis si Dieu s'empare de son esprit, mais de le lui abandonner sans résistance, s'abandonner. En août 1558, elle voit le grand ascète franciscain Saint-Pierre d'Alcantara. Et chose étrange, il lui apparaît en 1561, un an avant sa mort, donc c'est de la bilocation, alors qu'il est au loin, lui. Et puis, il lui apparaît souvent après sa mort. La première fois, il lui dit, « Bienheureuse pénitence, qui m'a valu une telle récompense. » En 1558, elle se sent ravie, et le Seigneur lui dit ceci. Le Seigneur lui dit, lui parle, oui, c'est étrange. Moi, il m'a jamais dit un mot. Du moins, j'ai pas l'impression. Ils sont chanceux, ces saints. Dieu leur parle. Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais avec les anges. Et les ruptures salutaires s'accomplissent. C'est la liberté. La liberté. Se libérer. Mais, c'est par une mystérieuse qu'elle entend. Est-ce que c'est une illusion? C'est peut-être diabolique, d'ailleurs. Et elle entend, toujours au fond de son cœur, j'imagine, « N'aie pas peur, ma fille, c'est moi. Je ne t'abandonnerai pas et ne crains rien. » Et ce jour-là, elle subit une offensive démoniaque, et alors elle prend une croix, et puis elle dit, « Maintenant, venez tous, vous. Je suis servant du Seigneur, et je veux voir ce que vous pouvez me faire. » Et déjà, la ville, l'ordre même des Carmes conspire contre Thérèse. Elle devient suspecte à cause, ça se sait certaines choses. Mais Dieu lui dit, « Pourquoi crains-tu? Ne sais-tu pas que je suis tout puissant? J'accomplirai ce que je t'ai promis. » Et notre Seigneur l'exhorte à tout dire à son confesseur, à lui obéir, même si sa direction devient contraire à ce que Dieu veut. Mais Dieu saura bien avoir le dernier mot, et la lecture de beaucoup de livres écrits en espagnol se trouvait interdite à Thérèse. Plusieurs lui plaisaient bien, alors notre Seigneur la rassure, il dit, « Ne t'afflige pas, je te donnerai un livre vivant. » Et Sa Majesté, comme dit Thérèse, est alors pour elle le livre par excellence qui lui enseigne les vérités. C'est vraiment en lisant les évangiles, en rencontrant Jésus, en l'aimant, qu'on peut vivre de lui. Et elle sent le Christ près d'elle, à sa droite, sans percevoir la moindre image, pas quand même. Dieu donne à l'âme sans parole ni image. Elle s'est abandonnée à lui. Et on peut dater du 29 juin 1557 une vision purement intellectuelle de notre Seigneur. Une autre vision de son humanité après la résurrection serait du mois de janvier 1558, l'année suivante. Mais auparavant, Thérèse avait vu ses mains seulement, puis finalement son divin visage. Et le premier ravissement de la sainte serait survenu vers janvier-juin 1558. Et la vision de l'humanité du Sauveur est très fréquente, finalement, par les années qui suivent. Elle se confesse alors à un jésuite, le père Alvarez. Et puis, les années sont pleines de complications, finalement. Et c'est la vision des saints apôtres Pierre et Paul, à la gauche de Thérèse. Il y a la transverbération de Thérèse par un ange. Vous connaissez ça, là, sous la forme corporelle, placée à gauche. C'est un ange qui est pas très grand, puis qui la transperce d'une pointe de feu. Hein. C'est une chose très étrange. Je vous les raconte parce qu'on les raconte, mais je reste pantois devant tout ça. Parfois, il semble lui transpercer le cœur, et quand il retire son arme, c'est comme si les entrailles suivaient. Mais son âme est comblée, dit-elle d'une suavité indicible. Étrange. Thérèse veut fonder donc un monastère de carmélites déchaussés, qui vont pieds nus, dédié à Saint-Joseph. La ville s'oppose au projet, mais elle a des appuis. Mais il y a des menaces. Mais les menaces s'éloignent petit à petit. Et Thérèse travaille et prie avec une patience extraordinairement calme. Le Seigneur l'encourage, il lui dit, « Je t'ai dit d'entrer comme tu pourrais. Tu crains même que la terre te manque, qu'un terrain te manque, quoi. Combien de fois ai-je dormi en plein air parce que je n'avais pas d'endroit où aller? » C'est ce que je lui dis, Jésus. Ça ressemble à ce qu'on trouve dans Saint-Luc au chapitre 9, verset 58, vous connaissez ça. Pour Noël, à 46 ans, elle reçoit du provincial de l'Ordre des Carmes de se rendre à Tolède pour consoler une veuve riche. Elle doit sortir de son couvent. Elle ne rentre à Avila que l'année suivante, en juillet, et ça lui fait bien un bon 6 mois dehors, quoi. Le 24 août, fête de Saint-Barthélemy, c'est la victoire, le nouveau monastère s'ouvre. Bon, elle a 4 novices qui n'ont pas de dot. Elles prennent l'habit. C'est la pauvreté parfaite. Que symbolise l'absence de chaussures, quoi. Mais cependant, Thérèse est rappelée par son premier monastère de l'incarnation parce qu'elle est nommée prieure. Notre Seigneur la rassure. Ne sais-tu pas que je suis tout puissant? Que crains-tu? De fait, elle réussit finalement à rentrer dans son jeune monastère en mars 1563. Et c'est pendant ces 2 années si pleines d'angoisse et de joie que Thérèse écrit le livre de sa vie, qu'elle appellera plus tard en 1581, un an avant sa mort, le livre des miséricordes de Dieu. Et sa vie prend un tournant fantastique, par un contraste violent, celle qui semble vouée désormais à une vie cloîtrée, là, puis contemplative. Elle va se trouver jetée sur les routes, les chemins, pour 18 nouvelles fondations. Évidemment que les bonnes langues disent qu'elle est possédée d'un esprit ambulatif. Aujourd'hui, on appelle ça de la bougeotte. Hein. Elle va créer avec Saint Jean de la Croix, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé souvent, toute une congrégation de carmes et de carmélites déchaux, là, sans chaussures, approuvée par le pape Grégoire XIII en 1580. Donc, de 1567 à 71, elle organise 7 monastères de religieuses, 2 de religieux. De 1574 à 76, puisqu'elle était absente pour être prieure au monastère de l'Incarnation, là, ça l'a arrêté 3 ans, ça. Elle fonde 4 monastères, puis ensuite 5 monastères, puis Séville, où elle fonde en 1575, est à quelques 400 kilomètres d'Avila. Ça fait quand même assez loin, et Villanoué va à plus de 200 kilomètres. Mais que de lutte! Alors là, les mitigés, les carmes et les carmélites mitigés, ordinaires, là, se défendent férocement. Comment? À coup de prison, oui, ils jettent en prison Jean de la Croix. Ils se défendent à coup d'excommunication. Ils vont pas de main morte, hein, c'est des Espagnols, peut-être, je ne sais trop. Et l'année 1578 est horrible. Hein. L'œuvre semble près de périr, mais Sainte Thérèse d'Avila passe la nuit de Noël à pleurer. Elle dit, je ne sais pourquoi l'on m'appelle fondatrice. C'est Dieu qui a fondé, ce n'est pas moi. Sans doute, mais c'est bien elle qui a la peine et la fatigue qui éprouve. Tout ça. Elle arrive dans une auberge où il y a tellement d'hôtes, des visiteurs, quoi, qu'on marche ou sur les bas des bêtes, là, ou sur des gens qui s'occupent des mules, des muletiers qui sont couchés. La sainte et ses sœurs, là, logent sur 6 pieds de superficie seulement, alors elles doivent rester debout. Les hôtelleries ont cela de bas qu'on a hâte d'en sortir, dit-elle. Je ne parle pas, écrit Thérèse dans ses fondations, de tout ce que nous avions à souffrir du froid, du soleil, de la neige, qui parfois tombait sur nous des journées entières. De temps en temps, nous nous égarions. Il m'arrivait aussi des crises très violentes, outre la fièvre, car, Dieu en soit béni, j'ai d'ordinaire bien peu de santé. Mais il était clair pour moi que notre Seigneur me soutenait puissamment. Puis, et dès que je m'étais mise en route, je m'en souciais peu, considérant pour qui je les entreprenais, me disant que Dieu serait loué dans ce nouveau monastère, que le Très-Saint-Sacrement y résiderait. C'est en effet une extrême consolation pour moi que de voir une église de plus, surtout quand je songe à toutes les églises que détruisent les luthériens. Les luthériens n'y allaient pas de main morte à l'époque, il paraît que nous non plus. Triste chose, aujourd'hui nous songeons à nous unir. Vous avez entendu les dernières nouvelles à Radio Ville-Marie, hein? C'est extraordinaire. Et ces récits d'une vie très active de Thérèse d'Avila contiennent quelques pages de conseils, des conseils aux prieurs, les femmes là, qui dirigent. C'est plein de bon sens. C'est tout à fait comparable au chapitre 2 et 64 de la règle bénédictine. Vous connaissez peut-être ça, la règle bénédictine. Ça concerne l'abbé. Et on dirait qu'elle s'est inspirée de ça. Et Thérèse arrive à Salamanque, elle loge dans une grande maison vide qui avait été occupée par des étudiants. La compagne de la sainte se demande avec angoisse si l'un de ses mauvais drôles n'est pas là caché. Elle a peur, Thérèse a peur, dites une seconde, puis elle dit, ma sœur, quand ce sera arrivé, je verrai ce que j'aurai à faire. Pour le moment, laissez-moi dormir. Et plus tard, on part pour Séville, où il écrit où les démons sont plus puissants qu'ailleurs. Dans des chars surchauffés par le soleil, quel voyage comme ça. C'est comme le purgatoire, dit-elle. La Sainte écrit, le soleil de là-bas ne ressemble pas à celui de la Castille. Il est bien plus intolérable. Et en revanche, Burgos est une ville glaciale. Mais notre Seigneur dit, ne tiens pas compte de ces froids, je suis la chaleur véritable. On raconte que Thérèse dit un jour à Dieu, s'étant blessée à la jambe, Seigneur, après tant d'ennuis, il arrive encore celui-là. Et elle entend Jésus qui lui dit, Thérèse, mais c'est ainsi que je traite mes amis. Et elle lui répond, en souriant, ah mon Dieu, pas étonnant si vous en avez si peu. Elle est malade, on lui procure des oranges et des citrons, puis elle les fait passer à des pauvres. Mais comment peut-elle résister, elle si débile, à cette vie exténuante? En général, elle se retire seulement après minuit pour prendre son repos. Elle a besoin de toute l'énergie nécessaire pour tenir tête, oui, à un vicaire général qui, furieux de voir les carmélites s'installer dans Ségovie, sans son autorisation, fait saccager leur chapelle, imaginez, oui, un vicaire général. Comme quoi, dans l'Église, il y a parfois des hommes ou des femmes étranges. C'est pas une raison pour détester l'Église. Non, il faut s'incliner. Et au besoin, aller communier de la main de ce vicaire général. Pourquoi pas? Jadis, des extases et lévitations, la coupe de la vie ordinaire. C'était une âme novice aux merveilles divines. Elle connaissait pas ça. Ça absorbe toute l'attention de son corps. Il lui arrive de se sentir soulevé au moment de communier. Étrange. Elle aussi. Elle se sent soulevée. Alors elle saisit la grille à deux mains, puis elle s'y cramponne. Plus tard, mieux habituée, Thérèse jouit presque toujours de la présence de Dieu, même en voyage, ou quand elle doit traiter de toutes sortes d'affaires. Et cette jouissance est si excessive, cette présence de Dieu, que les mille tracas, les mille travaux, bien humbles, Thérèse fait parfois la cuisine, elle se montre bonne cuisinière d'ailleurs, ne sont pas de trop pour la distraire, non, non. Mais elle souhaite sans cesse que son bien-aimé la libère de tous ses tracas. Ce qui est encore plus surprenant dans la vie de Thérèse d'Avila, ce sont peut-être ses écrits. Malgré cette vie active, à partir de 1562, là, elle trouve le temps d'écrire, pour le bien des âmes, plusieurs livres, comme le livre de sa vie écrite par elle-même. Vous pouvez acheter ça, c'est publié chez Stock en particulier, en deux tomes. Et ça va être déféré aux inquisiteurs, là, vers 1575, c'est rédigé parmi bien des tracas. C'est plutôt un traité de vie spirituelle qui est basé sans doute sur sa propre expérience qu'un exposé de sa vie extérieure. C'est sa vie intérieure plutôt, hein. Tel le chemin de la perfection, aussi quel beau livre, le chemin de la perfection. Mais c'est publié aux éditions du Cerf. Vous l'avez, une belle couverture jaune. Et puis ça existe en toutes sortes d'autres éditions, d'ailleurs, le chemin de perfection, écrit entre 1562 et 1568, ça se termine par un commentaire du pater. Après avoir comparé les différents degrés d'oraison à des eaux, d'abord difficiles à obtenir de la terre, puis tout à coup répandues libéralement par le ciel. Ce livre donne en cours de route bien des vues, qui peuvent être utiles, à ceux qui veulent progresser dans la vie ascétique et mystique. Chemin de perfection. Il y a l'ouvrage aussi magnifique, Les Demeures, ou si vous voulez, le château intérieur. C'est l'histoire de son âme qui passe de salle en salle jusqu'à la majesté du Dieu vivant. La plume de Thérèse d'Avila, qui a plus de 60 ans à ce moment-là, garde une grande jeunesse. C'est frais, un grand écrivain. Elle se compare elle-même aux perroquets, c'est curieux, à ces oiseaux imitateurs du langage. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait dire que ce que Dieu lui enseigne. Les âmes extériorisées sont comme des reptiles et des bêtes, croit-elle. Les âmes s'occupent trop des choses à l'extérieur. Si elles ne regardent pas un peu vers leur intérieur pour y remédier, elles seront changées en statut de sel, dit-elle. C'est un peu vrai, hein? L'action est très importante pour la plupart d'entre nous. Il faut agir. On peut pas rien que s'occuper de son intérieur. Mais si on s'occupe pas de son intérieur, on est changé en statut de sel, selon elle. Nous ferons de meilleures vertus en nous attachant à la vertu de Dieu qu'en nous collant à notre limon, à notre bout, si vous voulez. Faut fixer les yeux sur Jésus-Christ et sur les saints. La véritable perfection, la sainteté, quoi, consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Ne cherchons pas à penser beaucoup, mais à aimer beaucoup. Aimer, c'est être fortement résolu de contenter Dieu en tout. Faire effort pour ne pas l'offenser. Le prier sans cesse pour l'accroissement de l'honneur et de la gloire de son Fils et pour l'exaltation de l'Église catholique. Aimer l'Église. Oui, malgré tous ses défauts. L'aimer du fond de notre être. Marcher rapidement, c'est avoir beaucoup d'humilité. Mais quant aux grâces extraordinaires, le plus sûr est de se dire tranquillement qu'on ne les aura jamais. Et notre tâche est d'imiter le petit ver à soie et de tisser notre petite coque en renonçant à tout amour propre, en produisant des œuvres de pénitence, de raison, de mortification, puis d'obéissance. Dieu, quand il voudra, sera bien nous transformer en papillons blancs. Il faut s'examiner en ce qui concerne l'amour mutuel, le désir d'être tenu pour la dernière de toutes, dit-elle. Comment nous comportons-nous dans l'ordinaire de la vie? Alors la plus sainte sera celle qui servira notre Seigneur, avec plus de mortification, d'humilité et de pureté de conscience. Car être spirituel, c'est être esclave de Dieu. C'est porter sa marque, la croix, et lui abandonner sa liberté. Et pour la religieuse, c'est se faire esclave de toutes. Dans les peines intérieures, il convient de vaquer aux œuvres extérieures de charité, puis espérer miséricorde de Dieu. Il faut du courage pour être femme ou épouse, si vous voulez, du roi du ciel. Alors pratiquement, pour leur raison, nous nous mettrons en présence de Dieu. Nous considérerons sa miséricorde et sa grandeur, et aussi notre bassesse. Et Dieu nous donne toujours le moyen de faire oraison lorsque nous en avons le vif désir. Elle est une amitié, l'oraison, un entretien fréquent, intime, avec celui dont nous nous savons aimer. Après avoir purifié sa conscience, au besoin par la confession à un prêtre, on peut se présenter Jésus tout près. Alors on se voit marcher ensemble, on porte sa croix. On peut utiliser aussi une image de notre Seigneur comme la Sainte Face, ou un bon livre. Et l'important est d'avoir amour et crainte, ces deux vertus si grandes, l'amour et la crainte. Il est bon d'avoir de grands désirs, de vouloir imiter les saints, de soupirer après le martyr, et ne faire aucun cas de tout ce qui ne sert pas à nous approcher de Dieu. C'est là marcher dans la vérité. Oui, parce que l'amour de Dieu consiste à le servir dans la justice, la force d'âme et l'humilité. La vie spirituelle authentique, selon Sainte Thérèse d'Avila, est semblable à un pays presque inconnu, mais plein de merveilles. Notre Seigneur dit à Thérèse d'Avila, d'ailleurs, « Regarde, ma fille, ce que perdent ceux qui sont contre moi, et ne manque pas de le leur dire. » Elle écrit dans la première de ses relations, « Je voudrais faire retentir ma voix pour représenter à tous les hommes combien il leur importe de ne pas se contenter de peu au service de Dieu. » Et notre Seigneur disait à Sainte Thérèse d'Avila, « Ah, ma fille, qu'il y en a peu qui m'aiment véritablement. S'ils m'aimaient, je ne leur cacherais pas mes secrets. Sais-tu ce que c'est que m'aimer véritablement? C'est comprendre que tout ce qui ne m'est pas agréable n'est que mensonge. » Cette vie ascétique et mystique menée avec un grand élan, un élan d'amour, procurait à Sainte Thérèse un réconfort pour son corps, et les souffrances même devenaient délicieuses. Il lui arrivait de dire à Dieu, « Seigneur, ou mourir ou souffrir, ou mourir ou padecer. » C'est un peu le sentiment qu'elle exprimait dans une poésie. « Je vis sans vivre en moi, et j'espère une si haute vie que je meurs de ne pas mourir. » Faudrait que je vous lise tout ce poème, c'est superbe. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Thérèse d'Avila était énergique et courageuse. Elle dit, je ne me souviens pas de m'être plainte. Et sous ce rapport, je ne suis nullement femme. Oh, 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 oh. J'ai le cœur dur. Dieu assiste ceux qui s'exposent pour lui, dit-elle. Croyons fermement que moyennant le secours divin et des efforts, nous pourrons avec le temps acquérir ce que tant de saints, aidés de Dieu, sont parvenus à acquérir. Si jamais les saints n'avaient conçu de semblables désirs, et si peu à peu ils n'en étaient venus à l'acte, jamais ils ne seraient montés si haut. Notre Seigneur demande et aime des âmes courageuses, pourvu qu'elles soient humbles et se défient beaucoup d'elles-mêmes. Combien, dit-elle, il importe dans la vie spirituelle de s'animer aux grandes choses. Saint-Pierre n'a rien perdu de se jeter à la mer, bien qu'ensuite la frayeur l'ait saisi. Alors, notre Seigneur disait à Sainte-Thérèse, « En cette vie, le profit spirituel ne consiste pas à jouir de moi davantage, mais à faire ma volonté. Tu désires toujours les souffrances et tu les refuses. Je dispose des choses après ta bonne volonté. Non, d'après ta sensibilité et ta faiblesse, tu vois combien je t'aide. On n'est point obéissant si on n'est point résolu à souffrir, dit Jésus. » Alors, Sainte Thérèse d'Avila a écrit de nombreuses lettres aussi. Je termine avec ça. On connaîtrait imparfaitement Thérèse dans ses lettres, adressées parfois à de très hauts personnages, par exemple au roi lui-même, Philippe II. Elle a pour son roi, d'ailleurs, une espèce de vénération où se mêle une sorte de patriotisme et une grande foi catholique. Elle crie vers lui en 1577 contre les moniales, les moines mitigés, là, les carmes et les carmélites mitigés, pour défendre Saint-Jean de la Croix emprisonné, comme je vous ai signalé tout à l'heure. Elle lui écrit aussi pour ses sœurs excommuniées. Mais elle a du succès. Et il y a des lettres extraordinaires. Une lettre au père Gratien, Carme, en mars 1581, un an avant sa mort, qui est assez curieuse, où elle dit des choses très, très sympathiques. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'il aille en Andalousie, parce que Saint-Jean de la Croix ne peut souffrir ces gens-là en Andalousie. Pour ses affaires de fondation, elle recourt à des pseudonymes. Par exemple, elle signe Joseph. Plutôt, elle appelle notre Seigneur Joseph, curieux. Et elle appelle le nonce apostolique, l'ancien ambassadeur du pape, Mathusalem, etc., etc. Elle dit, ne croyez que Dieu et vous dans votre monastère. Que Dieu et vous dans votre monastère. Tant que vous ne serez pas obligé par votre fils de vous occuper des autres, restez tranquille. Dans une autre lettre, elle dit au père Gratien, veuillez me dire comment vont vos pieds, puisque vous avez des engelures, et heureusement que ce mal est sans conséquence. Elle s'intéresse à des détails comme ça qui nous surprennent. Elle écrit aussi, parce qu'elle ressent comme un mal personnel, les grandes tempêtes qui agitent l'Église à son époque et qui agitent encore l'Église aujourd'hui. Elle dit, ce qui m'afflige, c'est le péché en général. Et les hérésies aussi me désolent souvent. Il me semble que c'est le seul malheur à déplorer. Or, ces calamités de l'Église me causent une telle douleur que s'affliger d'autre chose, à mes yeux, c'est se moquer. Et elle croit qu'un seul docteur vraiment saint, qui surgirait, là, un vrai saint docteur, ferait plus de bien que beaucoup d'autres doctes, mais vivant dans la tiédeur spirituelle. Elle se dit prête à disputer avec tous les luthériens réunis. 1000 vies, si elle les avait, elle voudrait les sacrifier pour qu'une seule âme donne à Dieu une seule louange de plus. Et pour sauver une seule de ces âmes qui se perdent en foule dans la France protestantisée. Elle, c'est qu'elle a une grande douleur pour le, sur, à, à cause du schisme, à cause de la séparation dans l'Église et les gens qui se disputent. C'est pour elle une grande souffrance. C'est pas qu'elle déteste les protestants. C'est sa souffrance. Faut bien comprendre ça. Puis à l'autre bout du monde, elle souffre aussi pour les pauvres Indiens. Ils me coûtent bien des larmes. Elle a été béatifiée 32 ans après sa mort. Sa mort s'est survenue dans la nuit du 4 au 5 octobre. Mais par la suite du changement au calendrier, décrété par Rome en février 1582, le 5 octobre est devenu le 15 octobre. On a sauté 11 jours. Parce qu'on avait mal calculé les révolutions de la Terre autour du Soleil. Alors, elle est béatifiée 32 ans précédemment. Elle est canonisée 8 ans plus tard. Et elle a été déclarée docteur de l'Église. Son portrait a été peint en 1576, 6 ans avant sa mort, par le frère Jean de la Misère. Quel curieux nom, Jean de la Misère. Ça correspond assez bien aux descriptions écrites, taille plutôt grande, les sourcils d'un roux noir, les yeux noirs. Elle a écrit des prières sublimes comme « Ô Maître souverain du monde, puissance suprême, bonté suprême, la sagesse même, sans commencement ni fin, vous dont les œuvres n'ont point de terme, un abîme sans fond de merveille, une beauté qui contient toute la beauté, la force même. Ô mon Dieu, ô miséricorde sans borne, ô faveur si élevée au-dessus de nos mérites, comment nous autres mortels oublions-nous tout cela? Vous, ô mon Dieu, souvenez-vous de l'extrême misère où nous sommes et jetez vos regards sur notre faiblesse, car vous savez tout. Ô mon Dieu, je n'ai d'autre volonté que de vous aimer.